France Info.
Et à la une de ce 10 février, des parents qui saisissent la justice après la découverte de toxines dans du lait infantile. Ils s'insurgent que ce soit Nestlé qui fasse les analyses et pas un laboratoire indépendant. À la une aussi ce matin, un adolescent jugé à Marseille à partir d'aujourd'hui, accusé d'être un tueur à gages et du meurtre d'un chauffeur de VTC. Nous serons en Norvège où des figures politiques sont au cœur de l'affaire Epstein. Nous serons à Cuba où il n'y a quasiment plus de pétrole. Et puis dans ce journal, une page JO avec le très bon départ de Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, le duo de patineurs français. C'est une information de la cellule investigation de Radio France. Un peu plus de 2 mois après le premier appel de lait infantile Gigos de la maison mère Nestlé contaminée par une toxine potentiellement dangereuse, 24 familles portent plainte contre les industriels pour avoir tardé à retirer les produits et dénoncent l'inaction des autorités sanitaires pour établir le lien entre la consommation de ces produits et la maladie de leur enfant. Marie Dupin, ses familles, elles accusent les autorités de ne pas mener les investigations nécessaires et de leur demander même de renvoyer les poudres de lait à Nestlé.
Oui, et parmi ses parents, Apolline, maman d'Auguste, 5 mois et demi, début janvier, elle découvre que le lait Gigos de son bébé, malade depuis plusieurs semaines, est contaminé par une toxine. Elle demande alors des analyses officielles aux autorités et voilà ce qu'on lui répond.
J'ai reçu un appel pour me dire que Nestlé allait venir récupérer mes boîtes pour pouvoir les analyser. Donc moi, je lui ai fait part de mon mécontentement et surtout que je n'étais pas d'accord puisque moi, mon souhait, c'est de faire analyser les boîtes de lait par un laboratoire indépendant et neutre.
Malgré son refus clairement exprimé, Apolline reçoit après cette conversation un mail de Nestlé avec un bon de retour pour renvoyer le produit contaminé. Et elle n'est pas un cas isolé. De nombreuses familles dont les enfants ont parfois été hospitalisés racontent la même histoire, inacceptable pour leur avocate, maître Nathalie Goutalan.
Ce n'est absolument pas au fabricant d'un produit suspecté d'avoir rendu un enfant malade d'analyser ce produit. Et le plus troublant, le plus grave même, c'est que cette consigne soit donnée par les autorités. Ce n'est conforme ni à la réglementation européenne, ni aux procédures françaises.
De son côté, le ministère de l'Agriculture assure que dans cette situation, les laboratoires des fabricants sont adaptés, précisant que des expertises officielles pourront intervenir ultérieurement.
Enquête signée Marie Dupin de la cellule investigation à retrouver sur franceinfo.fr en longueur. Il s'appelait Nessim Ramdan, il était chauffeur VTC, il a été abattu au volant de sa voiture à Marseille en octobre 2024 et le procès du suspect s'ouvre aujourd'hui et le profil interpelle. C'est un adolescent, il avait à peine 14 ans au moment des faits, recruté comme tueur à gages par un détenu qui se présentait comme un membre de la DZ Mafia, détenu qu'il a ensuite dénoncé. Le procès à huis clos s'ouvre donc aujourd'hui. Il durera 2 jours devant le tribunal pour enfants de Paris. Mathilde Vinceneux, vous avez rencontré pour France Info la compagne de la victime Nessim Ramdan, qui sera présente à l'audience.
Nessim Ramdan, 37 ans, n'avait rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Entraîneur de foot amateur, il cumulait les emplois et avait choisi de déménager pour éloigner ses 3 enfants de la violence, raconte Mélanie, sa compagne.
On a quitté Marseille pour ça. On n'était pas loin des quartiers. On a grandi nous-mêmes dans des quartiers.
Et pourtant, Nessim Ramdan a été tué d'une balle dans la tête au petit matin alors qu'il conduisait dans son VTC un adolescent de 14 ans. Le mineur explique qu'il cherchait la cible qu'il devait abattre quand il a finalement tiré sur le chauffeur. Mélanie, elle, se dit terrorisée à l'idée qu'un jour ses enfants comprennent que leur père a été tué par un autre enfant à peine plus âgé qu'eux.
Pourquoi il a fait ça? Ça pourrait être mon fils, quoi, en fait. Mes fils, ils ont 12 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de mes enfants maintenant.
Aide-soignante, Mélanie n'arrive plus à travailler et doit gérer seule ses 3 enfants. Comment accompagner ses victimes, demande son avocate, maître Anne Santana-Marc.
Devant la recrudescence de ces victimes dites collatérales du narcotrafic, pourquoi ne pas envisager un statut, une protection par l'État de ces enfants qui se retrouvent, en tout cas pour ceux de Nessim, orphelins de père.
Ce meurtre doit tous nous interroger, martèle l'avocate. Il pose aussi la question du rajeunissement des criminels. Comment un ado de 14 ans a-t-il pu devenir tueur à gages?
Un adolescent de 14 ans qui désormais risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle à son procès. Les répercussions en Europe de l'affaire Epstein continuent. Au Royaume-Uni, le roi Charles se dit prêt à aider la police alors que de nouvelles révélations ont été faites sur son frère, l'ex-prince Andrew. Il est soupçonné d'avoir potentiellement transmis des rapports confidentiels à Jeffrey Epstein en 2010. Autre monarchie européenne concernée par ce scandale, la Norvège. Les millions de pages publiées par le ministère américain de la Justice qui met en lumière des liens parfois très étroits entre le criminel sexuel et une partie de l'élite du pays. Tout cela allant de la princesse héritière à un ancien président du comité Nobel, en passant, Louise Baudet, par un couple de diplomates célèbres qui est sous le coup depuis hier d'une enquête de police.
Ils ont été les artisans des accords d'Oslo au début des années 90. Monayul et Terdi Rødlarsen sont aujourd'hui soupçonnés de corruption aggravée. Leur lien avec Epstein remonte aux années 2010, alors que Monayul est ambassadrice au Royaume-Uni. Élément à charge, c'est 10 millions de dollars légués par Epstein à leurs deux enfants dans le testament qu'il rédige à l'avant-veille de sa mort. Également impliqué, Thorbjørn Jagland, ex-premier ministre devenu président du comité Nobel norvégien et secrétaire général du Conseil de l'Europe, lui aussi en contact étroit avec le criminel sexuel qui lui paye nuit d'hôtel, vol en jet privé et séjour à Palm Beach. Un autre Norvégien, patron du Forum économique mondial de Davos, est cité. Sans oublier le plus choquant pour le royaume scandinave, l'implication de Mette-Marit, l'épouse du prince héritier, dont le nom apparaît un millier de fois dans les Epstein Files. La dizaine de personnalités impliquées appartiennent toutes à des institutions clés d'un pays qui se targue d'être l'un des moins corrompus au monde. Pays où la confiance, vertu cardinale, est désormais entamée chez plus de 3 Norvégiens sur 4.
Précision de Louise Baudet sur France Info. Cuba au bord de la panne sèche, de nouvelles restrictions destinées à économiser le carburant sont mises en place dans le pays car il n'y a quasiment plus de pétrole. En cause, la pression des États-Unis qui interdisent tout ravitaillement de pétrole dans le pays. Aucun pétrolier venu du Venezuela n'a d'ailleurs accosté depuis la fin décembre et la chute du régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Et les 10 millions de Cubains essayent désormais tant bien que mal de vivre malgré cette pénurie de pétrole, Isabelle Labéry.
La situation est extrêmement difficile.
Eduardo Canciano, 79 ans, il a été maire de la vieille Havane. Aujourd'hui, étrangement calme, les stations-service sont à sec.
Il y a moins de bus et les fréquences sont réduites. Le train aussi circule moins souvent. C'est pour ça que certaines entreprises travaillent seulement 4 jours par semaine et on encourage le télétravail.
Des sacrifices encore pour tenir le plus longtemps possible.
Les États-Unis cherchent à provoquer un soulèvement populaire et à renverser le gouvernement, mais ils n'atteindront pas leurs objectifs. Nous allons résister.
Fernando González Llort préside l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Lui aussi est resté fidèle à l'idéal révolutionnaire, mais il veut croire que Cuba ne sera pas laissé seul face à l'agresseur américain.
De quel droit le gouvernement des États-Unis viole-t-il toutes les normes internationales ? Je crois qu'il y aura dans le monde un mouvement collectif de dénonciation de cette atteinte profonde aux droits du peuple cubain.
Mais même le Mexique, deuxième fournisseur du pays, a suspendu ses livraisons de pétrole.
Un témoignage recueilli par Isabelle Labéry. Une amende très salée pour la SNCF. La compagnie ferroviaire est condamnée à verser plus de 270 millions d'euros pour rupture de contrat. Une filiale du groupe Mullier, la maison mère d'Auchan, pour avoir abandonné un projet de rénovation XXL de la gare du Nord à Paris. La SNCF fait appel de cette décision. Et puis ça sent très bon, JO de Milan-Cortina pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. Le duo français a terminé hier en tête du programme de danse rythmique en danse sur glace. Il devance les Américains Madison Chock et Evan Bates, les triples champions du monde en titre. Alors tout se jouera demain pour la médaille d'or à l'issue du programme de danse libre. Et ça tombe bien, c'est le point fort des Français. Un petit avantage psychologique qui fait plaisir à Guillaume Cizeron.
On savait pas trop à quoi s'attendre après le team event, mais on savait qu'on avait fait un meilleur score, mais on était quand même stressé d'attendre deux groupes pour savoir le résultat final, mais on est évidemment super content. C'est une belle première victoire sur ces jeux. C'est une belle victoire avec ce programme-là qui nous a donné du fil à le retordre, donc on est vraiment super content.
Guillaume Cizeron est parmi les épreuves à suivre. Évidemment, aujourd'hui sur France Info, les qualifications en ski de boss. 7 tricolores sont en lice. Début aussi des épreuves de biathlon avec entre autres le champion olympique en titre, le français Quentin Fillon-Maillet. Christine Peña, la couverture nuageuse dans votre météo s'étire désormais sur tout le territoire.
Tout le monde, oui, effectivement, nous sommes tous sous les nuages. Nous aurons quelques petites éclaircies, peut-être sur les Pyrénées cet après-midi, sur les Alpes également. rend peut-être sur Paris, mais alors ça sera vraiment furtif et de très courte durée. Nous avons ces perturbations qui s'enchaînent, mais vraiment très rapidement. Le vent va souffler, va commencer à souffler très fort d'ailleurs dans la nuit prochaine, là, de mardi à mercredi, mais le pic de ce vent, ça sera vraiment dans la nuit de mercredi à jeudi, certainement jeudi matin. Et là, nous aurons des vigilances qui pourraient évoluer. Pour l'instant, on va rester en jaune, me disait Météo France. Je viens
vous
de raccrocher.
Voilà.
Avec alors, on a un petit pic de douceur là d'ailleurs, surtout pour demain, mais des températures. On n'a pas de gelée ce matin. 1 degré à Strasbourg, 3 à Nancy. Il fait 10 du côté de Brest, de Paris, comme à Toulon. Le plus doux ce matin, c'est pour Biarritz. 13 degrés. On aura une petite vague de froid là qui devrait arriver pour le week-end prochain. Et d'ailleurs, dimanche, de la neige jusqu'en plaine pourrait bien tomber, notamment en Normandie, peut-être sur Paris. Mais très vite, les températures remonteront.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.